Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le président Félix Tshisekedi a clôturé hier dimanche le sommet de prière patriotique à Kinshasa aux côtés de responsables religieux internationaux. C'est pour soutenir l'unité et la résilience de la RDC. Au Kasaï oriental, l'avenue Monseigneur Nkongolo rouvre après près de 30 ans, facilitant la circulation et stimulant les activités économiques des habitants. Au Maniema, la société minière Punia KCC Mining dénonce les blocages dans l'exploitation à Punia et appelle les autorités à rétablir l'ordre. Maître Eloi Bindi Boulia Bougoye, avocat conseil de PKM, est notre invité ce midi. Bonjour à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part hier dimanche à la clôture du sommet de prière patriotique organisé par l'Église de réveil du Congo et RC au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Ce grand rassemblement faisait suite au dîner de prière tenu la veille, samedi 8 novembre, au fleuve Congo, hôtel. Outre la présence de l'archevêque président et représentant légal de l'ERC, Évariste Ejiba, l'événement a réuni des responsables du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit en RDC Fonarev, la révérende Paula White-Kane, chef du bureau de la foi à la Maison Blanche, ainsi que l'archevêque Nicolas Duncan William, venu du Ghana. Plus de détails avec Alain Rung.
Selon la présidence de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a débuté son intervention en remerciant la conseillère de Donald Trump ainsi que l'archevêque Nicolas Duncan Williams pour leur visite en République démocratique du Congo, qualifiée de tournant dans le destin du pays. Dans son allocution, l'homme de Dieu venu du Ghana a déclaré « La RDC ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant à qui nous avons dédié ce pays s'est levé sur notre nation. » En amont, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit Fonarev avait sensibilisé l'assistance à travers le témoignage poignant d'une survivante évoquant les souffrances liées à la guerre et son parcours de résilience. Dans le même registre, l'archevêque président Ejibaya Mapia a présenté le rapport à mi-parcours d'une pétition initiée par les évêques de l'église de réveil. Il a affirme ce qui se passe en RDC est un génocide en référence au principe de Nuremberg de 1950 et au statut de Rome de la Cour pénale internationale.
En politique, le parti En Vol exprime son opposition à toute tentative de révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il l'a exprimé lors d'une matinée politique organisée hier dimanche dans le quartier Kanluka, dans la commune de Ngalima, à Kinshasa. Le porte-parole provincial de cette formation politique d'opposition, Merdi Mazengo, a mis en garde contre une telle initiative qu'il juge susceptible d'aggraver la crise politique actuelle et de compromettre le processus de paix en cours. Il a par ailleurs insisté sur l'importance pour les Congolais de se préparer à participer aux élections générales prévues en 2028, conformément aux dispositions légales en vigueur. Merdi Mazengo est joint au téléphone par Blaise Ndongala.
Vous savez bien que le changement de la constitution et le troisième mandat du président Tshisekedi va regresser le pays en arrière sur le plan de la démocratie et risque de renforcer la crise politique. Il ne reste plus que quelques 1130 jours pour que le régime actuel puisse amener le pays aux élections. Le chef de l'État a intérêt, durant cette période, à réhabiliter les routes, améliorer la desserte en électricité, en eau potable et restaurer la paix dans la partie est du pays. Les policiers doivent sécuriser la population et non tirer les coups de feu ainsi que les gaz lacrymogènes en blessant les paisibles citoyens. Je souhaiterais que les policiers aillent tirer les coups de balle aux ennemis du peuple dans l'est du pays. Je suis de retour et je pense que personne ne peut m'interdire de vivre au Kanluka. Vous avez fait montre de ténacité en participant à ce meeting populaire. Nous allons continuer la lutte contre toute idée de changement de la constitution et contre aussi un éventuel glissement du régime actuel.
Au Kasaï oriental, l'avenue Monseigneur Nkongolo est désormais ouverte à la circulation des piétons, des motocyclistes et des véhicules. Plusieurs têtes de ravin qui avaient fragmenté cette route à divers endroits depuis 1985 ont été maîtrisées par l'entreprise Safrimex qui a gagné le marché de modernisation. La réhabilitation de cette voie suscite une vive satisfaction parmi les habitants qui n'hésitent pas à exprimer leur joie. Reportage Esther Dalafina.
Il est désormais possible de circuler sur l'avenue Monseigneur Nkongolo, long de près de 2 km. Cette route relie les quartiers des communes de Djoulou à ceux de Bipemba et c'est depuis près de 30 ans que les quartiers de ces deux communes étaient coupés dans son axe qui part du rond-point Petrombou et Tchombela. Des têtes de ravins ont même englouti des centaines de maisons résidentielles, rendant la circulation difficile même aux piétons. Dans le cadre du projet Tchilegilou, les habitants de ces deux communes peuvent de nouveau se fréquenter. La joie est immense. La route est accessible. Cependant, les travaux ne sont pas arrivés à terme, indique l'Office de voirie et drainage OVD, signalant que l'ouverture de ce tronçon permet également de booster les activités économiques des habitants des deux communes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, dans la province de la Mongala, la route nationale numéro 6 est coupée depuis une semaine au niveau du territoire de Bongandanga. La formation émane de la coordination de la société civile Force Vive de cette entité. Le tronçon endommagé relie le port de Bongandanga au bâtiment administratif du territoire. Cette interruption constitue une situation préoccupante, paralysant les activités économiques des habitants de cette partie du pays. Des précisions avec Askenzik Biataheureux.
C'est un grand trou baignant de 5 mètres de profondeur et 10 mètres de longueur qui s'est créé sur cette route d'intérêt économique pour Bongandanga. Selon la coordination de la société civile Force Vive du territoire de Bongandanga, c'est une tête d'érosion en perpétuel développement qui a fini par détruire la partie de cette route située à près de 100 mètres du bureau administratif du territoire. La circulation est bloquée à cet endroit effondré. Moto, vélo, véhicule n'y accèdent pas. Barthélémy Lotanda, coordonnateur de la société civile Force Vive de Bongandanga.
Vraiment, il n'y a plus de passage. Les gens qui sortent au port n'arrivent plus au bâtiment administratif. Les mamans vendeuses de Chikwang qui viennent très constamment au marché central de Bongandanga, elles n'ont plus passage de pouvoir atteindre ce marché-là. L'OVD ici à Bongandanga ne s'occupe seulement que de l'érosion qui est à côté.
Contacter l'administrateur du territoire de Bongandanga en déplacement à Kinshasa reconnaît le drame. Pour Félix Bamba, les travaux de l'OVD ont été stoppés à l'endroit effondré suite au manque de quelques engins lourds bloqués de l'autre côté de la rive de Bongandanga par faute de bacs ou bateaux. Raison pour laquelle, selon l'autorité territoriale, l'érosion n'a pas été maîtrisée suite à l'abondance de pluie qui tombe sur Bongandanga.
Restons sur les routes pour parler de cet accident qui s'est produit ce lundi matin sur la route Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga à la suite d'une collision entre deux véhicules circulant en sens opposé. Selon des images relayées sur les réseaux sociaux, plusieurs corps inertes sont visibles au sol tandis que d'autres victimes seraient encore coincées dans les véhicules accidentés. À ce stade, aucun bilan officiel n'a été communiqué. D'après certains témoins, l'accident aurait été provoqué par une vitesse excessive combinée à une chaussée glissante en raison de la pluie. À Matadi, dans la province du Congo central, les occupants des terrains publics situés dans la commune de Mvouzi sont appelés à justifier leur présence sur ces espaces dans un bref délai. Le bourgmestre de Mvouzi, accompagné de l'équipe communale, mène une opération d'inspection sur les 10 sites. Il invite les personnes concernées à se présenter au bureau communal muni de tous les documents attestant leur droit d'occupation. Selon Oscar Mbuinga, cette démarche vise à identifier les occupants illégaux de terrains appartenant à l'État. Reportage de Nana Plurich Mambo, rendu par Alain Irung.
Une mission conjointe d'inspection a été menée vendredi dernier par le bourgmestre de la commune de Mvouzi, Oscar Mbuinga Tati, accompagné d'une équipe communale de l'aménagement du territoire. Cette première phase de l'opération s'est déroulée le long du tronçon routier reliant la galerie Makaya-Vangu, le marché Abako et le quartier Kotazo, où plusieurs occupants de domaines publics ont reçu des convocations. La présence des agents de l'aménagement du territoire vise à examiner la situation foncière dans la commune communes, précise le bourgmestre. En cas d'irrégularité, les autorités annoncent que les constructions illégales seront démolies conformément aux dispositions du ministère de la Justice. Cette opération de contrôle se veut à la fois préventive et dissuasive dans le but de rétablir l'ordre dans la gestion du patrimoine public communal. Le bourgmestre de Mvouzi appelle les habitants concernés à coopérer, soulignant que la protection des espaces de l'État contribue à préserver l'avenir collectif de la commune.
Direction l'Ituri, où une grande majorité d'enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Ce constat est établi par l'ONG de défense de droits humains, COADO, qui mène depuis un mois une campagne de sensibilisation auprès des parents sur l'importance de cette démarche civique. Parmi les causes identifiées, l'insécurité persistante qui entraîne des déplacements fréquents de la population, le dysfonctionnement des services d'état civil ainsi que le manque d'information des familles sur leurs obligations légales. Reportage Isaac Remoyopé.
Depuis le dernier cycle de violences des groupes armés en 2017, l'enregistrement des enfants à l'état civil ne s'est fait plus dans plusieurs villages du territoire des Djougou, déplore l'ONG COADO. Selon cette structure, plusieurs bureaux d'état civil ont fermé leurs portes dans les groupements échefferies à cause de l'insécurité. Dans les rares bureaux encore opérationnels, les registres d'enregistrement sont inexistants. Autre difficulté, les déplacements répétés des populations qui fuient les exactions des miliciens. Beaucoup vivent aujourd'hui dans les sites des déplacés. La Commission nationale pour les réfugiés CNR tente d'organiser l'enregistrement des enfants, mais le nombre d'inscrits reste très faible, principalement à cause du manque d'informations des parents sur l'importance de cette démarche. Pour y remédier, COADO a lancé une vaste campagne de sensibilisation dans plusieurs localités. Cette initiative implique également les personnels de santé chargés de fournir des données nécessaires aux services d'état civil encore actifs. Le coordonnateur de COADO appelle afin le gouvernement à doter ces services en documents administratifs, mais surtout à restaurer l'autorité de l'État dans cette entité territoriale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
En santé, des équipes de dépistage du VIH-Sida seront déployées sur plusieurs sites accueillant des personnes déplacées afin d'évaluer la situation sur le terrain et d'orienter la réponse sanitaire. Cette décision fait suite à une réunion tenue vendredi dernier par le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida PNMLS en collaboration avec l'ONU-Sida. Selon ces organisations, l'intégration du VIH-Sida dans les interventions humanitaires devient une priorité pour les services de santé spécialisés dans la province de la Tchopo. Des précisions avec Jacques Mkonkole.
Face à la vulnérabilité des déplacés dans les sites d'accueil, la lutte contre le VIH-Sida doit être intensifiée, car, estime les services de santé, ces personnes sont exposées au risque de contamination. Pour Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS, elle compte élaborer un document de plaidoyer afin de mobiliser les fonds nécessaires pour mener cette lutte.
On va aider les acteurs sur le terrain à réaliser certaines activités allant dans le sens de prévenir le VIH auprès des victimes de ces conflits, garantir la continuité des soins pour ceux qui ont déjà le VIH.
Benjamin Chizubu Mutombo, représentant du bureau de l'ONU-Sida à l'est de la RDC, salue cette approche. Il garantit l'engagement de son organisme en vue de soutenir les efforts visant à éviter une propagation incontrôlée du virus.
C'est déjà un outil de plaidoyer qui pourra servir de base quand on va aller voir les partenaires pour leur demander leur appui pour venir résoudre les problèmes dont déplacés de guerre et de déplacés des conflits intercommunautaires.
La mobilisation des services spécialisés s'avère donc indispensable pour garantir une riposte efficace dans les zones sensibles, telles les sites des déplacés, estiment le PNLS et l'ONU-SIDA. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, l'ONG Young Men Action for Education, YMIA en sigle, exprime son inquiétude face à la non-application des instructions ministérielles relatives à la gratuité scolaire pour certains groupes vulnérables. Selon l'organisation, les directives de la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui exempte les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones pygmées du paiement des frais de scolarité dans les écoles secondaires, ne sont pas encore mises en œuvre dans cette province. La circulaire signée en juin dernier vise à lutter contre toute forme de stigmatisation ou de discrimination dans le système éducatif. Dans une déclaration faite ce lundi, le point focal de YMIE, Placide Muyumba, a confirmé cette situation au micro de Paul Monanga.
l'arrêté devait beaucoup plus s'éclaircir pour épargner ou exempter les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Mais hélas, dans l'arrêté, rien n'a été signalé. Au moment que cette instruction est venue de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, qui a demandé au gouverneur des provinces de prendre des dispositions pour exempter les peuples vivant avec handicap et les peuples autochtones à tous les frais de scolarité perçus dans les écoles secondaires, que ce soit public ou privé. Mais jusque là, nous sommes véritablement déçus. Le peuple vivant avec handicap, le peuple autochtone continue à être renvoyé de leurs écoles pour les non-paiements des frais de scolarité. Nous demandons au gouvernement provincial du Tanganyika de revoir ou de faire même une notification pouvant permettre à cette catégorie-là de peuple puisse être exemptée à certains frais demandés dans les écoles secondaires.
Actualité internationale. La conférence des Nations Unies pour le climat, la COP30, débute ce lundi 10 novembre à Belém, aux portes de l'Amazonie brésilienne. Et pour le continent africain, les enjeux sont considérables. Alors que l'Afrique pèse moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est elle qui en paye le prix le plus élevé. Chaque année, les catastrophes climatiques amputent entre 2% et 5% du PIB de nombreux pays africains. Conséquence, l'argent qui devait financer l'enseignement ou la santé et faire croître l'économie et réorienter vers la gestion des dégâts. Une véritable injustice pour les États africains qui réclament une transition juste et équitable.
L'invité.
Au Maniema, la société minière Punia KCC Mining, PKM en sigle, peine toujours à lancer l'exploitation industrielle dans le territoire de Punia. À cette difficulté s'ajoute le non-respect du code minier que l'entreprise déplore vivement. Face à cette situation, PKM interpelle les autorités compétentes à rétablir l'ordre dans le secteur minier. Pour en parler, nous recevons Maître Eloi Bundi Boulia Bougoyé, avocat conseil de Punia KCC Mining, qui est notre invité. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Eloi Boudimboulia Bougoye, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
À ce jour, comment évoluent les activités de la société minière Punia KCC Mining?
La société Punia KCC Mining, qui a signé un contrat de joint venture avec la société Sakima, est devenue titulaire de permis depuis 2002. Et alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi l'industrialisation ne commence pas, l'exploitation industrielle. Au fait, les documents qui ont été donnés en appui des titres par Sakima à PKM, les documents de recherche, étaient tellement vétustes qu'ils ne pouvaient pas permettre de monter un business plan ou bien une étude de faisabilité appropriée. La société a été obligée de commencer d'abord par compléter les documents de recherche afin de pouvoir élaborer une étude de faisabilité qui est appropriée et à la hauteur du projet. Donc, à ce jour, nous sommes en train de finaliser ces études de recherche pour que, à la fin de cette année, nous puissions produire l'étude de faisabilité en bonne et due forme.
Ça montre que vous êtes bité à certains défis.
Oui, nous avons quelques difficultés parce que nous avons obtenu la propriété des titres depuis 2022. Mais, compte tenu de ces recherches qui n'étaient pas suffisantes, nous devrions recommencer pratiquement à zéro. Mais aussi, nous avons des difficultés logistiques. L'accès à Punia n'est pas facile. Tout doit venir par Kisangani, mais la route n'est pas praticable. Parfois, on paie même 2 mois pour que les camions arrivent à Punia. C'est pourquoi nous avons construit un aéroport qui va permettre de servir Punia afin de pouvoir acheminer le matériel et les personnes.
Quelle est la capacité de cet aéroport?
C'est un aéroport de 2 km qui peut accueillir des avions de grande capacité comme les Airbus 320 de CAA. C'est vraiment un aéroport qui a une grande capacité.
À quand le débit effectif de l'exploitation industrielle?
Oui, nous ne pouvons pas dire exactement à quand, mais nous voulons d'abord commencer par 2 petites usines dans les P19 et dans les P235, donc en attendant que nous puissions acquérir la grande usine qui va vraiment booster les projets. Mais tout cela, nous le mettons au cours de l'année prochaine.
Malgré ça, vous exploitez les minerais à Punia?
Nous n'exploitons pas les minerais. L'exploitation industrielle est incompatible avec l'exploitation artisanale. Mais dans notre joint venture, la société Sakima avait demandé que nous ne puissions pas chasser les artisanaux. Et c'est ce que nous avons fait, nous les avons maintenus. Mais les artisanaux doivent être sous notre contrôle. On ne veut pas les désordres. Nous voulons que tout exploitant artisanal, négociant, coopérative, entité de traitement, qui veut s'approvisionner dans les PKM, puisse signer un accord avec PKM. Autrement, nous allons considérer cette activité comme illégale et demander à l'autorité de sanctionner.
Aujourd'hui, c'est déjà 4 ans depuis que vous êtes installé à Pounia. Quel est l'impact de cette société à la communauté?
Oui, d'abord, nous avons travaillé avec le gouvernement provincial et la route qui relie Pounia à Lubutu. Cette route était dans un mauvais état, mais avec l'appui de la province qui a donné le carburant et nous avons donné les machines, voilà, la route devient praticable. Deuxièmement, nous avons donné une barge sur la rivière Ngoli afin de faciliter la traversée de la population. Nous sommes aussi en train d'entretenir la voirie de Pounia. Nous l'entretenons régulièrement. Nous avons donné du travail déjà à plus de 100 personnes. Donc, nous croyons que nous allons faire revivre les rêves de la Somenki à la population de Pounia.
C'est-à-dire, vous êtes en train de respecter votre cahier des charges?
Nous ne pouvons pas encore commencer le cahier des charges parce que le cahier des charges commence avec l'exploitation. Mais déjà, nous avons déjà signé le cahier des charges. Les charges ont été transmises au gouverneur des provinces et le gouverneur des provinces qui devrait les transmettre au cadastre minier pour que le ministre des Mines puisse nous donner l'autorisation. Mais nous pensons que au début de l'année prochaine, nous aurons cette autorisation de commencer l'exécution du cahier des charges et ça va être chose faite.
Pour la deuxième fois, vous participez à cette conférence sur le mine, l'énergie et les infrastructures.
Oui, pour la deuxième fois, nous participons à cette conférence parce que nous voulons faire connaître à toute la population maniémienne ce que Pounia Kasese Mining est capable de faire. Pounia Kasese Mining, ça sera un grand partenaire du gouvernement provincial parce que avec les 7 permis d'exploitation que nous avons, nous pensons que nous allons être la première société au Maniema et la province va voir les retombées en termes des routes parce que nous allons aussi investir dans le secteur de l'énergie en réhabilitant la centrale de Belia. Donc, nous croyons que la province peut compter sur Pounia Kasese Mining.
Eloy Boudimboulia Bougoye, je vous remercie.
Merci, Madame Florence.
Ainsi prend fin ce journal. Il a été coordonné par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Irung, Dieudonné Nyangasa, la mise en onde et moi, j'étais à la présentation. Merci de nous avoir suivis et merci de réécouter ce journal sur www.radiookapi.net.